Voilà la vraie nature du christianisme. Alors, on est dans cette série de Romains 8, et justement, ce texte ce matin, qui est Romains 8, 28 à 30, qui fait la suite, c'est le septième d'une série de 9 enseignements que j'ai commencé à apporter avec le premier, qui était « Aucune condamnation ». Ce matin, c'est « Aucun hasard ». Et là, je vais mettre « Aucun hasard », Romains 8, 28 à 30. Vous savez, Romains 8, 28 à 30 contient une des plus belles promesses du Nouveau Testament, et je dirais même de l'Ancien Testament, mais aussi contient une vérité qui est difficile à vivre, je dirais ça comme ça, difficile à accepter. Donc, autant c'est une promesse qui peut nous consoler et nous faire du bien dans des moments particulier de nos vies, et Romains 8, 28, entre autres, est cité très souvent. C'est un des versets favoris de plusieurs d'entre vous. Je suis certain que vous le connaissez. Je suis certain que vous le citez. Vous le citez à ceux que vous connaissez, à ceux que vous aimez, parce que, justement, il contient une belle promesse qui est réconfortante, qui est touchante, qui nous fait du bien. Mais aussi, de l'autre côté, lorsqu'on regarde ça, c'est quelque chose aussi qui vient nous bousculer, nous travailler, nous ramener à des situations qui sont pas faciles à accepter, parce que il y a aussi cette vérité-là qui est là dans Romains 8, 28 et 29 et 30. Et d'une certaine manière, même je dirais Romains 6, Romains 7 et Romains 8, on a regardé ensemble Romains 7, là on est dans Romains 8, mais Romains 6, 7 et 8, c'est pas mal le cœur du livre de Romains. C'est pas mal les éléments importants là qui fait que tout le reste se tient ensemble. Et là, justement, dans Romains 8, c'est un peu comme d'essayer de nous aider à nous sortir du quotidien, nous sortir de ce qu'on vit à tous les jours, et là, de nous donner une perspective beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, beaucoup plus vraie et beaucoup plus céleste de notre vie qui, des fois, est pas évidente à tous les jours. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de regarder ensemble. Vous savez, Romains 8, 28 parle de la souveraineté de Dieu, ou encore du plan souverain de Dieu pour ses enfants, ce qui s'est souvent référé comme étant les élus de Dieu. Dans ce plan souverain, absolument rien n'a été laissé au hasard. Donc, d'où l'idée, aucun hasard. Dieu a pensé à tout dans les moindres détails, longtemps d'avance et avant même la fondation du monde. Et il a pensé en tout, à tout, en vue de l'accomplissement, justement, de son plan souverain. Donc, Dieu, lui, il est en train d'accomplir son plan. Et dans ce plan-là, tout a été pensé. Et cette vérité d'un plan souverain qui allait gouverner notre vie sur terre et influencer notre destinée éternelle, représente une réalité incontournable du vrai christianisme ou de la vraie nature du christianisme. Les versets 28 à 30 ont été écrits pour nous aider à persévérer malgré les épreuves et les circonstances difficiles de notre vie avec Dieu. Et toute la louange ce matin, même les commentaires de Joseph, tout ça tournait autour vraiment de cette vérité qu'on voit dans Romains 8, 28 à 30. Donc, Paul nous dit que, étant unis à Christ, tout ce qui nous arrive, absolument tout ce qui nous arrive, contribue au plan souverain et gracieux de Dieu pour notre vie et pour notre bien. La capacité de tirer avantage de chaque événement que Dieu permet ou amène sur notre route, cette capacité-là, c'est le fruit de notre union avec Christ. Autrement dit, c'est grâce à lui si on peut arriver là, si on peut finalement se tourner vers lui dans les moments difficiles et les épreuves et les injustices et toutes ces choses qui peuvent nous arriver. Et là, d'où cette déclaration, notre union avec Christ nous assure l'accomplissement du plan souverain de Dieu à travers notre élection, prédestination, appel, justification, sanctification et glorification. Dieu a tout fait ça. C'est Dieu qui est en contrôle de l'élection, de la prédestination, de l'appel, de la justification, de la sanctification et de la glorification. Et ça, ça va s'accomplir dans notre vie. C'est garanti. Donc, c'est pour ça qu'on est assuré, à cause de notre relation avec Christ, à cause de notre union avec lui, un peu comme on a vu dans le chapitre 6 et le chapitre 7, où on est sorti d'un mariage qui était avec Adam, d'une union avec Adam, d'un régime qui était celui de la loi, et maintenant, on est sous le régime de la grâce et cette union avec Christ. Et c'est grâce à cette union que Dieu peut réaliser tout ce qu'il a promis de réaliser. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai aussi inclus. Il n'y a donc maintenant non seulement aucune condamnation, comme on voit au verset 1, mais ici, il n'y a donc maintenant aucun hasard pour ceux qui sont unis à Christ. Et là, on va lire les versets 28 à 30. Verset 28. Nous savons du reste que les bonnes choses, certaines choses, les meilleures choses, hein? Là, ici, toutes choses, ça inclut quoi, ça? Ça inclut toutes choses. Là, ça, c'est comme, pensez-y, là. Il y a une vérité ici qui est comme quand même pas évidente à accepter. Et beaucoup de monde qui ne connaissent pas Dieu, entre autres, ou qui pensent que Dieu existe, ou si Dieu existe, comme moi, quand je me rappelle, j'avais été en Belgique en 1980, évangélisé avec une équipe de jeunes et tout ça. Puis à un moment donné, je cogne à une porte, puis là, on se présente, on est du Québec, on est des jeunes, on parle de Dieu, on parle de l'Évangile. Alors, le monsieur dit, non, moi, je veux rien savoir de ça. Il dit, écoute. Il dit, je suis bien content pour toi si tu crois en Dieu. Mais moi, là, selon moi, si Dieu existe, c'est le diable. Il dit, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Ah non, il dit, écoute, il dit, avec tout ce qui se passe dans le monde, toutes les injustices, toutes les guerres, toutes les choses épouvantables qui arrivent, c'est impossible qu'un Dieu bon existe. Comprenez? C'est cette réalité-là qui est dure à accepter. Que là, toute chose, là, naturellement, ici, il parle des enfants de Dieu dans leur vie, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. C'est quand même particulier comme vérité. Oui, c'est très réconfortant, mais c'est aussi interpellant. Verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Et verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Il y en a du stock là-dedans, là. Comprenez? Pas pour rien qu'il y a juste trois versets ici à essayer de regarder puis de comprendre et de digérer. Alors, plusieurs mots importants que je veux prendre le temps d'expliquer pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Paul. Premièrement, le mot « hasard ». Hasard, ça veut dire tout simplement agir accidentellement par pure chance ou encore le sort et de manière non prévisible ou non préméditée ou selon le destin. Ça, c'est toutes des possibilités qu'on voit avec le mot « hasard ». Et là, maintenant, ma question qui tue, est-ce que le hasard est mentionné dans la Bible? Ceux qui pensent que oui, levez la main. Ceux qui pensent que non, levez la main. Eh bien, vous êtes dans l'erreur. Moi aussi, j'ai été surpris de voir que le hasard est mentionné dans la Bible. Alors, pourquoi dire aucun hasard si le hasard est mentionné dans la Bible? Y a-t-il une réponse? Eh bien, oui. Mais le hasard est mentionné 5 fois dans l'Ancien Testament. Ruth 2:3, en parlant que Ruth est allée par hasard. 1 Samuel 6:9 et 20:26 qui parle de David. 1 Roi 22:34 et 2 Chroniques 18:33. Et là, une seule fois dans le Nouveau Testament. Et savez-vous, c'est qui parle du hasard dans le Nouveau Testament, selon vous? Paul? Ah, Jésus. C'est bon, c'est lui. C'est en plein lui, dans la parabole du bon Samaritain, où il dit, c'est les paroles de Jésus, un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin que cet homme qui était blessé, qui était à terre. Donc, Jésus utilise dans son histoire, dans cette parabole, qu'on sait qu'est une parabole, qui aurait pu être en réalité quelque chose qui se serait passé, mais c'est vraiment une parabole, donc c'est une histoire où Jésus essaie de communiquer une vérité, mais là, il parle du hasard, que ce sacrificateur qui par hasard. Alors, comment expliquer cela? C'est facile. Vous d'accord avec moi? Le hasard, comme qui est mentionné dans la Bible, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas planifié faire ce qu'ils ont fait. Ou quand même quand que Saül dit, « Ah, David, c'est par hasard qu'il n'est pas ici. » Donc, c'est pas volontaire, c'est pas planifié de sa part. C'est ce que Saül pense. Donc, le hasard, ça existe pour qui? Ça existe pour nous selon notre perspective. Parce que nous, on peut pas tout planifier. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Dieu. Il y en a qui trouvent ça dur, hein, de pas être capable de tout planifier, tout organiser, tout prédire, prévenir, puis ainsi de suite, ainsi de suite. On aimerait ça. Mais le hasard, pour nous, oui, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un au centre-ville. Et justement, c'est arrivé hier qu'on a rencontré des gens qui étaient là, qu'on a commencé à jaser avec eux, et puis finalement, on a découvert qu'ils étaient eux aussi chrétiens en train de chercher de déménager de Montréal et s'emmener dans la région. Mais on a commencé à jaser avec eux et c'était par hasard. On s'est assis à un endroit, ils ont posé une question à quelqu'un, je me suis reviré de bord, il m'a regardé, je l'ai regardé et j'ai dit « oui, moi je suis de la place ». Parce qu'ils cherchaient quelqu'un de la place. Alors là, on a commencé à jaser, on a commencé à interagir ensemble. Donc, c'était, de notre point de vue, un hasard. Est-ce que, du point de vue de Dieu, le hasard existe? Et c'est ça la différence. C'est que pour Dieu, lui, il n'y en a pas de hasard. Et donc, pour nous, parce qu'on est unis avec Christ, pour ceux, naturellement, qui connaissent Jésus comme sauveur personnel, on peut dire pour nous, il n'y a pas de hasard. Même quand je rencontre une situation que je n'ai pas planifiée, que je n'ai pas prévue, ben je peux savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en contrôle. Parce que c'est Dieu qui a la main sur les événements de ma vie. Alors, le mot « dessein », justement, ces buts, projets, plans, desseins ou destins, ce qui est déterminé par Dieu et qui s'accomplira tel que Dieu l'a voulu. Ensuite, le mot « connu d'avance », c'est l'idée d'être résolument choisi, élu et aimé, et comme on voit dans Éphésiens, avant la fondation du monde, pour le salut. Donc, on a été connu d'avance. Prédestiné ou prédestination, c'est d'être désigné ou déterminé à l'avance, résolu à l'avance, établi à l'avance, déclaré à l'avance, arrêté à l'avance. Et là, l'idée du destin. Et là, dans cette idée du destin, là, ça veut dire que, il y a quelqu'un qui est en contrôle du destin et c'est Dieu lui-même. Appel à être divinement invité, attiré à Christ, est désigné à recevoir le salut par la foi en Jésus-Christ. Le mot « justification », c'est d'être déclaré juste, rendu juste, justifié, approuvé ou accepté par Dieu au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Et on voit au moins 30 fois ce mot-là utilisé dans Romains, comme Romains 3, 24. Sanctification, être séparé, libéré du péché sous toutes ses formes et la transformation de l'être à la ressemblance de Christ, comme on voit au verset 29. Donc, la sanctification fait donc partie intégrante de la prédestination. Parce que quand il dit qu'on est prédestiné, on est prédestiné à être rendu semblable à l'image de Christ. Donc, la sanctification fait partie intégrale du plan de Dieu, du plan souverain de Dieu pour chacun de ses enfants. Et finalement, le dernier, c'est glorification qui est là, le dépouillement de la chair et le revêtement d'un corps incorruptible, glorieux, immortel et céleste comme Christ. Et là, on va en avoir fini complètement avec la chair et le péché et toute la réalité qui vient avec. Donc ça, ce sont les mots que Paul utilise presque en totalité. Le mot sanctification, par exemple, n'est pas utilisé par Paul, mais il est inclus dans le mot prédestination. Et là, c'est là qu'on peut voir le lien. Vous savez, il y a 5 maillons de la chaîne incassable du plan souverain de Dieu. 5 maillons. Et ça, c'est plusieurs qui ont utilisé cette illustration-là pour parler de la chaîne d'or du salut. Donc, 5 éléments qui sont garantis, qui vont se produire. Que c'est impossible que ça s'arrête à un moment donné, qu'il y ait justement un maillon qui cesse ou qui cède ou qui casse. Impossible. Et c'est de là aussi que vient l'assurance du salut et non pas la perte du salut que certains pensent qui existe. Parce que vous savez, dans la conception de la perte du salut, c'est aussi cette conception du plan de Dieu, là. Qui est en charge de notre salut? Est-ce que c'est nous qui avons la responsabilité, la liberté de, et que là, il faut persévérer, et que si malheureusement on n'arrive pas à persévérer à un moment donné ou à un autre, un de ces maillons va casser, et donc je perds mon salut? Et là ici, cette chaîne d'or du salut est une démonstration que c'est impossible. C'est Dieu qui est en contrôle. Et on appelle ça la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui accomplit, c'est Dieu qui le fait. Dieu nous sauve au point de départ. On est d'accord avec ça. Personne qui croit au salut par la foi, par la grâce seulement, par Christ, croit que c'est nous qui sommes responsables de notre salut, qu'on le gagne, notre salut. Non, impossible. On est d'accord avec ça. Là où il y a des variantes parmi le monde évangélique, c'est la suite après ça. C'est qui se garde sauvé? C'est-tu nous qui nous gardons sauvés ou c'est Dieu qui nous garde sauvés? Et ici, Paul, dans Romains 8, clairement dit, c'est Dieu qui nous garde sauvés. Lui, il a commencé une œuvre et lui, il est en train de la continuer et il va nous emmener jusqu'à où? Jusqu'au 5e maillon. Il va commencer avec le premier, suis avec le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, c'est un tout, c'est incassable et c'est garanti. Donc, d'où notre assurance. Alors, le premier, c'est connu d'avance. Ou encore, la préscience de Dieu, ça c'est un autre terme qui est utilisé pour parler de cette réalité de connu d'avance. Ou encore, il y a un autre terme qui est utilisé qui est élu. Donc, on a été choisi. Dieu nous a choisis. Jésus l'a même dit à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi. Oui, vous avez dit oui à mon invitation, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et là, ici, Dieu nous dit, de la même manière, et même avant la fondation du monde, il nous a choisis. Avant même qu'on soit né, avant même qu'on comprenne rien, dans sa souveraineté, Dieu nous a choisis. On est des élus. Le deuxième maillon, c'est prédestiné. Donc, Dieu nous a choisis. Puis il nous a prédestinés. Il nous a prédestinés à quoi? Vous en rappelez? Paul nous dit, il nous a prédestinés à être semblables à son Fils même, à Jésus. Donc, l'œuvre de transformation est aussi garantie par Dieu. C'est Dieu qui va le faire. C'est pas nous qui allons le faire. Nous, on fait quoi? On collabore. On dit oui. On répond. Dieu, il est l'initiateur et nous, on est les récepteurs et les répondeurs. Hein? C'est ça, la réalité du salut. Troisième, on est appelé. Donc, élu, prédestiné, appelé. Ensuite, justifié. Et ensuite, finalement, glorifié. Ça, c'est la chaîne d'or du salut et c'est garanti par Dieu. Et là, il y a un autre monsieur qui a fait cette équation qui est A égale B égale C égale D égale E. Tout ça pour montrer que ça, c'est un tout et que ça se tient ensemble. Et donc, c'est pas séparé l'un de l'autre. Il a commencé simplement en disant, ceux qu'il a connus d'avance, ça c'est A. Il les a aussi prédestinés, ça c'est B. Alors, A égale B, parce que il les a connus, mais il les a aussi prédestinés. Ensuite, il recommence, ceux qu'il a prédestinés, donc là, c'est B. Il les a aussi appelés, C. Et là, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Avez-vous remarqué qu'il y a un mot qui revient dans chaque phrase? Aussi, 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 aussi. Connu d'avance, aussi. Prédestiné. Prédestiné, aussi. Appelé. Appelé aussi, justifié. Justifié aussi, glorifié. Et là, de là, sa conclusion, c'est Justin Delahaye. Paul affirme que le même groupe, composé du même nombre de personnes, en fait exactement les mêmes personnes, sont connues d'avance, prédestinées, appelées, justifiées et glorifiées. D'où mon équation A égale B égale C égale D égale E. Et ça, chers frères et sœurs, chers amis, c'est garanti. Comprenez? Pourquoi c'est garanti? C'est parce que c'est Dieu qui fait ça. C'est pas nous. C'est pas nous qui sommes connus d'avance. C'est pas nous qui nous sommes prédestinés. C'est pas nous qui nous sommes appelés. C'est pas nous qui nous sommes justifiés. C'est pas nous qui nous sommes glorifiés. C'est Dieu qui a fait tout ça. Dieu, c'est lui qui est en charge de chaque élément du salut. Alors, il y a trois affirmations dans le verset 28. Dieu, premièrement, Dieu est constamment à l'œuvre et en plein contrôle. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et, deuxièmement, son action est toujours pour faire ressortir quelque chose de bien. Et, troisièmement, le bien qui en ressort est sur toute chose, incluant celle qu'on ne veut pas, celle qu'on n'aime pas, et les mauvaises. Et je vous dirais même ceci, les mauvaises sont parfois meilleures que les bonnes. Êtes-vous d'accord avec moi? Les mauvaises choses qui arrivent dans nos vies, qu'on n'aime pas, qu'on voudrait pas qu'ils se passent, qu'on voudrait que ça soit plus facile, qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas de difficulté, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de contrainte, qu'il n'y ait pas de perte d'emploi, qu'il n'y ait pas de mortalité, qu'il n'y ait pas ci, qu'il n'y ait pas ça, sont utilisées par Dieu pour notre bien. Et notre bien, c'est quoi? Si vous vous rappelez, on est prédestiné à quoi? Alors, toute chose que Dieu permet dans nos vies qui nous titille, qui nous agace, qui nous rentre dedans, qui nous jette à terre, qui nous décourage, qui nous ramène au fait qu'on n'est pas parfait, qu'on a encore des choses et des croûtes à manger, que encore une fois je suis retombé dans cette affaire-là, encore une fois j'ai cette difficulté-là, encore une fois telle affaire est mariée, puis je voudrais tellement pas que ça soit là, que ce soit à mon travail avec mon employeur, que ça soit dans mon quartier avec un voisin ou quelque chose comme ça, que ce soit dans mon couple, que ce soit avec mes enfants, que toute chose qui nous rentre dedans là. Ben c'est une invitation que Dieu dit, ben regarde, viens à moi. Essaye pas de te débrouiller tout seul, là. Essaye pas de régler ça par tes propres moyens. Tu vas être frustré, tu vas être mécontent. Tu sais, dans le fond, l'amertume, c'est quoi, là? L'amertume, c'est que je suis pas capable d'accepter ce qui m'est arrivé. Ça n'aurait jamais dû m'arriver, cette affaire-là. Puis comment se fait que... Puis là, ça me met en fusil, en beau fusil. Et là, je suis pas content. Puis là, je nourris toutes sortes de choses dans mon cœur. C'est ça de l'amertume. Mais dans le fond, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec ces affaires-là qui m'arrivent? Il dit, viens à moi. Viens à moi. Tourne-toi vers moi. Oui, mais Seigneur, ça n'aurait pas dû m'arriver, ça. Bien, viens à moi. Ça aurait-tu arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Non, mais regarde, je l'ai utilisé pour te sauver. Parce que sans ça, impossible, tu n'aurais jamais été sauvé. Ben, une injustice m'a permis à moi, Dieu, de te sauver, de te pardonner de tes péchés. Alors, ton injustice que tu vis, que tu as de la misère à vivre, là, ben, peut-être que je peux m'en servir pour ma gloire. En moins, mais comment tu peux faire ça? Laisse faire. Okay? Essaye pas tout comprendre. Viens juste à moi. Remets ça entre mes mains. Fais-moi confiance. Laisse-moi agir. Et tu vas voir. Tu vas sortir du bien de ça. Et là, tu vas ressembler de plus en plus à mon fils. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire. Maintenant, Paul ne dit pas que tout ce qui nous arrive est bon. C'est ça. Non, non, il sait très bien qu'il est en train de parler. Que non, non, il y a des choses qui vont vous arriver qui sont pas faciles. Puis regardez tout le contexte de Romains 8, 28, là. Mais ça parle justement de souffrance, ça parle de choses difficiles, de choses pénibles, de choses insupportables à vivre sans l'aide de Dieu. Donc, le contexte de Romains 8, 28 n'est pas que tout va bien aller, tout va être rose et que vous allez avoir une belle vie et que moi, parce que vous êtes mon enfant, je vais vous protéger puis je vais éviter que des choses mauvaises vous arrivent. Non, Dieu savait très bien. Puis même s'il y a de quoi, Jésus a averti que si vous voulez me suivre, ben ils m'ont persécuté, là. Alors, attendez-vous aussi qu'ils vont vous persécuter aussi. Puis même Paul, après ça, rajoute en disant, celui qui va vouloir vivre pieusement en Jésus, il va vouloir vivre sa foi dans toutes les circonstances de sa vie, ben il va être persécuté, il va souffrir, c'est certain. Donc, loin de là, on est loin d'être protégé. Alors, il y a trois observations tirées de Romains 8, 28 à 30. Première, Dieu est constamment à l'œuvre et en plein contrôle sur toutes choses, incluant les mauvaises, touchant notre vie de manière à les transformer en bien. Deuxièmement, cette belle promesse du verset 28 est pour ceux et celles qui sont unis à Christ, qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, donc ses élus. Et 1 Jean 4, 19 disait ceci, « Pour nous, nous l'aimons et nous aimons nos frères dans la foi parce qu'il nous a aimés le premier. » Alors, on aime parce que Dieu nous a premièrement aimés. Alors, Dieu est toujours l'architecte, l'acteur principal, l'initiateur, le bienfaiteur, et nous, nous sommes les récepteurs, les admirateurs, les bénéficiaires, les gens qui reçoivent et répondent à son amour. Et là, il y a une belle citation de M. Piper, qui dit ceci, « Vous n'êtes pas la personne clé ici, en parlant de Romains 8. Dieu est la personne clé. » C'est lui qui s'engage à garantir l'accomplissement de cette promesse envers vous, et non pas l'inverse. Il sait que votre amour pour lui est trop fragile et incertain, mais l'appel de Dieu n'est ni fragile ni incertain. C'est lui qui a fait naître cet amour en vous. Et il n'a pas seulement fait naître l'amour, mais il le gardera en vous, et il le perfectionnera, afin que la promesse de Romains 8, 28 soit vraie pour vous à jamais. Donc, Dieu est la personne en charge, Dieu est la personne clé ici. Maintenant, il y a une question légitime qu'on peut se poser. Si Dieu n'a pas été en mesure de prévenir le mal qui m'a frappé, pourquoi maintenant devrais-je lui faire confiance qu'il va pouvoir le transformer en bien? Hein? Ah ben, la réponse, c'est parce que la Bible le démontre à maintes reprises. Par exemple, l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, où on lit que Dieu a transformé le mal de ses frères envers lui pour finalement procurer le salut à toute la nation d'Israël. Donc, oui, Dieu, dans son plan souverain, savait très bien qu'est-ce qui allait se passer et il a utilisé le rejet de ses frères et même le fait qu'il voulait le tuer, mais finalement, le plus vieux est intervenu, ils l'ont pas fait, ils l'ont vendu à une caravane qui s'est en allée en Égypte, et ainsi de suite. Puis là, on connaît le reste de l'histoire où Joseph a vécu injustice sur injustice. Mais à la fin, Joseph lui-même reconnaît que Dieu avait sa main sur toutes ces circonstances-là et que là, lui ne pouvait que constater la bonne main de Dieu et rendre grâce à Dieu que Dieu avait changé tout ça en bien. et non seulement pour lui-même, mais même pour toute sa famille et la nation d'Israël. Et que dire maintenant de Jésus lui-même dans le Nouveau Testament, où l'on voit comment Dieu a pu transformer le rejet de toute la nation juive pour procurer le salut à toutes les nations. Alors l'enjeu, c'est vraiment la souveraineté de Dieu et sa toute-puissance. Croyons-nous à cela? Croyons-nous que Dieu est vraiment souverain et qu'il est tout-puissant et en contrôle de chaque élément de nos vies, même celle qui nous fait pleurer ou qui nous décourage et ainsi de suite. Alors ça, c'est la question importante. Mais Dieu, on le voit dans la parole de Dieu, est en contrôle et il veut faire sortir du bien dans nos vies. Troisième observation, Dieu a posé des actes souverains avant la fondation du monde et il en pose encore aujourd'hui. Par exemple, il nous a connus d'avance, qui est la préscience divine, qui est l'élection. Maintenant, dans quel sens est-ce qu'il nous a connus d'avance? Bien, c'est dans le même sens qu'il a connu Abraham et son peuple Israël. On voit qu'il les a choisis, qu'il les aime et qu'il en prend soin. Et là, on voit Genèse 18, 19, où Dieu dit, « Je l'ai choisi » en parlant d'Abraham. Amos 3, 2, Dieu dit en parlant de son peuple, « Je vous ai choisi ». Et Ésaïe 43, 4, en parlant d'Israël, « Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime ». Donc, on voit que c'est dans ce sens-là que Dieu nous a connus d'avance, comme il a connu Abraham et son peuple. Il nous a aussi prédestinés, qui est la prédestination divine ou la sanctification, encore là dans le verset 29. Maintenant, dans quel but? Alors, je l'ai mentionné tantôt, le but de nous conformer à l'image de son Fils. Éphésiens 4, 13 dit aussi, « Parvenu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, et Colossiens 1, 28, afin de rendre tout homme, toute femme parfait en Christ, ce qui est vraiment le plan de Dieu. C'est Dieu qui va l'accomplir dans nos vies et il utilise toutes choses pour y arriver. Je termine avec quelques réflexions. Quelles sont les implications pour ma vie de cette vérité qui a aucun hasard parce que Dieu est en contrôle de toutes choses et qu'il va utiliser toutes choses pour notre bien? Bien, la première, c'est que je peux lui faire entièrement confiance pour mon salut éternel en tant que sauveur et la direction de ma vie en tant que Seigneur. Toutes choses sont prévues par Dieu et Dieu les utilise dans ma vie pour me faire du bien. Toutes choses. Donc, je peux lui faire confiance. Deuxièmement, je n'ai pas à être découragé par les mauvaises choses qui m'arrivent. C'est facile à dire, hein? Je suis comme vous. Il y a des choses que j'aimerais mieux pas vivre. J'aimerais mieux ne pas avoir à subir ou à être dedans. Mais la vérité est quand même là. Si je reviens à cette promesse de Dieu, ben je peux me dire, non, je comprends que ça, c'est pas facile, je comprends que ça, j'éviterais ça, mais je reconnais, Seigneur, que tellement de fois dans ma vie, et particulièrement, justement, les choses que j'aurais pas voulu qui m'arrivent dans ma vie, et là, je me suis tourné vers toi, je t'ai fait confiance, je me suis attendu à toi, et là, à un moment donné, j'ai constaté le pourquoi, ou j'ai vu le bien qui en est ressorti, et je ne peux que te donner gloire. Et donc, Seigneur, aide-moi maintenant à passer à travers cette situation-là qui n'est pas facile, que je voudrais qu'il n'existe pas. Comment veux-tu utiliser ça dans ma vie? Et là, le Seigneur va nous rencontrer à travers ça. Troisièmement, je serai plus confiant de prendre des risques pour Dieu et la cause de l'Évangile. Vous savez, si j'ai l'assurance que moi, ma vie là, est entre les mains de Dieu, qu'il me dirige, et que peu importe ce qui m'arrive, peu importe comment je vais naviguer à travers la vie, Dieu va toujours être là à tous les moments de ma vie, et donc, pourquoi craindrais-je? Pourquoi est-ce que je serais animé par la peur? Donc, non, je peux faire confiance à Dieu. Je lui appartiens. Il est mon papa du ciel, il est mon papa céleste. Et moi, je veux faire sa volonté. Et vous savez, même quand on dévie et qu'on ne fait pas sa volonté, donc qu'on fait notre volonté, ben même là, Dieu va s'en servir pour notre bien. Et il va faire ressortir quelque chose de ça au moment où là, tout à coup, on va se rendre compte qu'on a dévié, on va se rendre compte qu'on a pris une mauvaise décision, on va se rendre compte que c'était pas la volonté de Dieu, puis là, Dieu va dire, « Mais regarde maintenant ce que je veux pour toi. » Et là, il va faire une œuvre de sanctification dans notre vie, soit dans notre façon de penser, soit dans la détermination que notre vie maintenant soit vécue seulement pour Dieu. Plus jamais, Seigneur, je vais m'en aller dans une direction autre. Plus jamais, je vais avoir cet entêtement dans ma tête à ne pas vouloir faire ta volonté. J'ai appris ma leçon. Les conséquences qui sont venues avec, maintenant, Seigneur, plus que jamais, je veux vivre pour toi. Et Dieu va s'en servir. Alors, dans son plan souverain, c'est merveilleux. Dieu va utiliser toute chose, même notre désobéissance. Ce n'est pas un encouragement à désobéir, là. Comprenez? Je n'ai pas besoin de vous encourager pour ça. Mais c'est un encouragement à savoir que non, ce n'est pas parce que j'ai désobéi à Dieu, ce n'est pas parce que là, j'ai fait une niaiserie, je suis allé dans quelque chose que j'aurais pas dû aller, puis là, je m'en rends compte, puis là, je suis désolé, parce que là, c'est l'œuvre de l'Esprit dans mon cœur qui me convainc justement que ça, c'est pas ce que Dieu voulait pour ma vie. Et là, tout à coup, Dieu va faire une œuvre dans ma vie à travers cette erreur, cette bévue, ce faux pas, cette désobéissance. Et ça, c'est seulement Dieu qui, naturellement, est en mesure de faire ça. Donc, oui, je peux être plus confiant de même prendre des risques pour Dieu et pour la cause de l'Évangile. Maintenant, comment savoir si j'ai été choisi, élu, aimé par Dieu et prédestiné à ressembler à Jésus? Ben, la réponse à ça, il y en aurait toutes sortes d'angles là, que je pourrais l'aborder, mais j'ai pensé à Matthieu 11, 25 à 30. C'est Jésus qui parle naturellement. Et ici, je vois à la fois la souveraineté de Dieu, où Dieu est en contrôle, où Dieu choisit, où c'est Dieu qui a cette souveraineté, là, où on voit c'est à lui, tout ça. Et je vois aussi là où nous, comme êtres humains, on a une responsabilité. Et que là, Dieu nous interpelle en tant qu'êtres humains. Et regardez bien. Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Parce que là, il venait juste d'interagir avec les pharisiens, les scribes et tout ça. Tout ce groupe-là, là, de religieux. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses par rapport à qui il est, par rapport à sa venue, par rapport au fait qu'il est le Messie, aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés à qui? Aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Alors là, ici, on voit quoi? Le bienveillant dessein de Dieu. On revient à Romains 8, 28 à 30, où l'on voit que Dieu a un plan souverain. C'est un plan bienveillant. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, c'est qui révèle? Alors, on voit le rôle du Père, on voit le rôle du Fils, et ça, c'est entre les mains de Dieu. N'est-ce pas? C'est clair ici, là. Et là, le verset 25. Tout de suite après avoir dit ça, que Dieu a un plan bienveillant, c'est Dieu qui est en charge, c'est Dieu qui, puis là même, il y a un groupe qui est ciblé versus un autre groupe qui sont même pas ciblables. C'est les sages et les intelligents, tandis que les enfants, ici, sont ciblés. Puis là, il dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Voyez, ce qu'on sait, c'est que Dieu, c'est lui qui est en charge, et là, il est en train de viser des personnes particulièrement, et un peu comme dans Matthieu 5, où Jésus parlait encore là, « Heureux, heureux ceux qui ont soif, heureux ceux qui souffrent, heureux ceux qui ont faim. » Voyez, parce que ce que Dieu est en train de rechercher, c'est une catégorie de personnes. Et là, il interpelle ces personnes-là. Et peut-être que vous êtes une de ces personnes, c'est-à-dire une personne qui est brisée, une personne qui est humiliée par la vie, par les circonstances, par des échecs, par toutes sortes de choses que vous avez vécues, vous vous sentez brisé et humilié à cause de cela. Ou encore, comme il dit, ceux qui sont fatigués et chargés, la vie c'est trop lourd, je suis plus capable. Alors Dieu dit, c'est vous que mon Père recherche, et c'est à vous que je veux me révéler. Et là, est-ce que vous ressentez votre besoin de repos? Parce que là aussi, on le voit, c'est mentionné, cette idée d'avoir du repos, que Jésus veut donner du repos à votre vie, à votre âme, à votre cœur. Alors ça, c'est les gens que Jésus est en train de cibler, à qui il veut se révéler. Venez à lui tel que vous êtes, venez à lui. Alors si vous avez cet état d'âme, eh bien, Jésus vous recherche. Et si vous connaissez le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, eh bien, Dieu savait très bien que vous aviez cette soif, ce brisement, ce désir d'une relation avec lui et du pardon de vos péchés. Et c'est pour cela que vous êtes venu à lui. Jésus a dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, encore là, on voit le rôle du Père et on voit que Jésus dit, « Moi, je vais accueillir tous ceux qui viennent à moi. » Et ceux qui vont aller à lui, c'est qui? C'est les gens qui sont brisés, c'est les gens qui sont humiliés, c'est les gens qui sont fatigués, c'est les gens qui sont chargés, c'est les gens qui ont besoin du repos de l'âme. Et c'est ça que Dieu veut accomplir. Alors, la bonne nouvelle est que notre union avec Christ nous assure qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Versets 1 à 4, aucun vide, les versets 5 à 9, aucun cul-de-sac, les versets 10 à 13, aucun déshéritement, les versets 14 à 17, aucune vanité, 18 à 25, aucun abandon, 26 à 27, aucun hasard, 28 à 30, et bientôt, le mois prochain, aucun souci, les versets 28, les versets 31 à 34. Et ensuite, ça va être 35 à 39 qui va être aucune séparation, donc les deux derniers messages. Maintenant, j'ai un petit article de Chad Ashby qui dit « Puis-je gâcher le plan de Dieu pour ma vie? » Que va-t-il se passer si je choisis le mauvais emploi? Ou si je m'inscris à la mauvaise université? Et si je décide de déménager alors que j'aurais dû rester à Québec? Et si je me joins à la mauvaise église? Ou que j'épouse la mauvaise personne? Puis-je gâcher, sans le vouloir, le plan de Dieu pour ma vie? Et je pense que beaucoup d'entre nous, malheureusement, envisagent la vie chrétienne comme une traversée sur une corde raide. Nous pensons être perpétuellement en danger de tomber hors de la volonté de Dieu. Le moindre geste brusque et le moindre faux pas peut nous faire périr. Nous voudrions connaître le plan complet de notre vie, du berceau à la tombe. Nous aimerions parcourir les pages de son livre divin, où nos jours sont tous inscrits dans les moindres détails, avant même qu'aucun d'eux ne soit encore réalisé. Psaume 139, 16. C'est en fait une bonne chose que Dieu nous ait donné des esprits limités et une connaissance partielle de notre avenir, car cela nous permet d'expérimenter sa miséricorde et sa grâce. La vie chrétienne n'est pas une corde raide. La volonté de Dieu, elle est clémente. Comme le psalmiste l'a prié, « Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point », le psaume 18, 36. « Et je cours dans la voie de tes commandements car tu as élargi mon cœur », psaume 119, 32. Le Seigneur ne nous a pas mis sur une corde raide. Il élargit l'espace où nous marchons, un espace où nous faisons des pas avec confiance et où nos chevilles ne risquent pas constamment de se tordre. Et là, il continue en disant ceci. Nous pouvons exercer notre liberté chrétienne dans la largesse de sa miséricorde, Galates 5, 1. Nous vivons selon la sagesse chrétienne, mais sous le regard vigilant de sa grâce. Ce qui nous garde sur le bon chemin, ce n'est pas notre capacité à toujours discerner sa volonté, mais plutôt son habileté à nous guider malgré nos faibles efforts. Nos péchés ne peuvent pas faire dérailler ses plans. Nos mauvaises décisions ne peuvent pas modifier notre destination éternelle. Dans ces moments-là, Dieu a pourvu à son pardon pour nous garder sur le bon chemin. Il finit en disant, « Oui, comme des brebis, nous nous sommes tous égarés. » Ésaïe 53, 6. Et les brebis ont tendance à errer lorsqu'elles sont laissées à elles-mêmes. Et la miséricorde et la grâce de Christ ne sont pas pour autant une permission pour pratiquer le péché ou pour poursuivre nos désirs égoïstes. Non, en tant que troupeau de Dieu, nous marchons dans les vastes pâturages en suivant la voie de notre bon berger. Et ça, on voit ça dans Jean 10, 27. Il y a un petit chant, je ne sais pas si vous le connaissez, « Il tient ma main ». Veux-tu que tu connais ça? « Il tient ma main », oui? J'ai réussi avec mon épouse, je pense, à le réécrire. On l'a cherché sur Internet, j'ai cherché dans quelques recueils de cantiques, je ne l'ai pas trouvé. Mais il m'est venu à l'esprit ce matin, et je trouvais que ça allait bien avec qu'est-ce que Chad Ashby vient de partager, puis Romains 8, 28 à 30. Il tient ma main. Ça commence comme ça. Jésus tient ma main. Il me garde pas à pas vers le ciel. Là, c'est le petit bout, il me garde que je n'étais pas sûr. Mais, comme on dit en anglais, it sounds good. Alors, il me garde pas à pas vers le ciel. Il me conduit, j'attends son appel. Comme la brebis, on est dans son troupeau et il nous appelle par notre nom. Et là, on va vers lui, on revient vers lui. Ou, ben non, comme la parabole dit, il va même chercher celle qui s'est égarée. Il va laisser les 99 qui vont bien. Il va aller chercher celle qui s'est égarée. Il veut la ramener. Il veut la ramener à lui. Le chemin est long, mais mon sauveur est bon. Car il tient ma main. Ça vous tente-tu d'essayer de le chanter? Il tient ma main. Jésus tient ma main. Il me garde pas à pas vers le ciel. Il me conduit, j'attends son appel. Il tient ma main. Jésus tient ma main. Le chemin est long. Mais mon sauveur est bon, car il tient ma main. J'espère que c'est pas enregistré, là. Amen. Le chemin est long, frères et sœurs, mais notre sauveur est bon et il tient. On pourrait rajouter fermement, sans jamais la lâcher, Même si nous, on veut la lâcher, lui, il continue à la tenir. Hein? Et il va nous emmener à bon port. Ça, c'est le plan souverain de Dieu. L'œuvre qu'il a commencée, il va aussi la rendre à terme. Il va la parfaire, il va la continuer. Et il va nous emmener jusque dans sa présence, dans la gloire, où un jour, je vous le promets, si vous êtes unis à Jésus, si vous connaissez Jésus comme votre sauveur personnel, vous allez lui ressembler. C'est une promesse, pas de ma part, mais de la part de la parole de Dieu dans Romains 8. Ce qu'il a promis, c'est garanti, il va l'accomplir, il va le réaliser. Prions ensemble. Je vais vous inviter à vous lever. Je vais inviter Joseph à venir. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on se présente devant toi ce matin bien faible, bien humble, Seigneur. On reconnaît notre besoin de toi ce matin. On veut réitérer, Seigneur, que sans toi, on n'y arriverait pas. Nous, on ne l'a pas. On n'a pas ce qu'il faut dans notre humanité, notre chair. C'est impossible, Seigneur, qu'on puisse arriver jusqu'à la fin. Mais Seigneur Jésus, on veut saisir ce matin cette promesse. On veut saisir par la foi ce que ta parole nous enseigne. Que Seigneur, tu nous as connus d'avance, tu nous as prédestinés, tu nous as appelés, tu nous as justifiés et Seigneur, tu vas nous glorifier. Seigneur, c'est ta promesse. Tu vas utiliser toutes choses qui nous arrivent, même les mauvaises et peut-être surtout, particulièrement les mauvaises, les plus difficiles d'entre elles, pour nous emmener, Seigneur, dans une communion plus intime avec toi, pour que tu puisses, Seigneur, avoir un accès plus grand dans notre vie et que tu puisses nous transformer de plus en plus, jour après jour, et qu'on puisse te ressembler un peu plus chaque jour. Et, Seigneur, un jour, on va te ressembler parce qu'on va être libéré complètement de la chair et du péché. On va avoir cette résurrection du corps. On va avoir un corps nouveau, un corps céleste. Et Seigneur, on va être en communion avec toi pour l'éternité. C'est ce qui nous attend. Et c'est pour ça que, Seigneur, pour nous, il n'y a aucun hasard. Merci, Seigneur Dieu. Merci de nous donner un si grand salut. Et puisses-tu encourager chacun d'entre nous avec les circonstances dans lesquelles chacun de nous vit présentement. Peut-être certains sont dans des circonstances très difficiles. Seigneur, sois avec eux. Communique ta grâce à leur cœur. Fais que ta parole soit un baume. Fais que cette promesse de Romains 8, 28, que Seigneur, tu vas faire ressortir du bien à travers ces circonstances difficiles, puisse venir sur leur cœur et qu'ils puissent la saisir par la foi. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas comme sauveur personnel, Seigneur, qui se pose des questions, qui a peut-être de l'amertume dans son cœur, qui est peut-être en train de voir le mal autour de lui qui existe ou qu'est-ce qui lui est arrivé ou les situations décevantes qu'il a vécues ou des gens même en ton nom ont fait des choses horribles, Seigneur, et même avec tout ce qui se passe dans notre société actuellement puis que la vérité qui sort sur des choses qui sont horribles, qui ont existé et qui existent encore. Seigneur Dieu, que tu puisses pointer leurs yeux vers toi, Jésus, sur cette croix. Ou sur cette croix, toi-même, tu as subi les pires ignominies. Tu as été maltraité, rejeté, bafoué, fouetté, Seigneur, crucifié. Seigneur, tu as subi, ton sang a été versé et tu n'aurais jamais dû aller sur cette croix. Mais tu as accepté d'y aller parce que tu savais que ça allait payer la pleine rançon de nos péchés. Alors, Seigneur, que leur cœur puisse se tourner vers toi. Tu leur dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, je vais vous donner du repos. Venez à moi. Seigneur, qu'ils puissent venir à toi ce matin. Par l'entremise de ton Saint-Esprit, je te prie, Seigneur, d'ouvrir les yeux du cœur et de les aider à recevoir ton amour, recevoir ton sacrifice, recevoir ton pardon. Toi seul peux opérer un tel miracle. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers toi, Seigneur. Et on te donne toute la gloire qui te revient. Merci, Jésus, d'être là. Merci d'exister. Merci de prendre soin de nous. Merci de tourner toutes choses à notre bien. Que toute la gloire te revient. On t'aime, Seigneur Jésus. Amen.